Podcast La Première.
Oui.
Oui.
Dis-moi. Par où y dire?
Et souvent, je leur fais aussi expliquer aux cinquième années ce à quoi ils sont arrivés. Donc en fin de réto, ils vont voir les cinquièmes en leur disant « On vous prévient, l'année prochaine, vous allez avoir du mal pendant quelques mois, mais comme nous, maintenant, c'est chouette, quoi. Donc accrochez-vous, vous verrez, ça marche. » C'est un bon truc aussi de faire venir les anciens, de montrer que bah, voilà, ils s'en sont sortis, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas l'année d'après.
Produit par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques et des collections, Le Monde Invisible présente. L'enseignement de l'art contemporain à l'école. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Des places de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
authentique, tantôt,
Le Monde Invisible.
Muriel Thys, je suis photographe ici depuis très longtemps. Et maintenant, je vais reprendre la communication pour les expos.
Sylvie Messier, donc moi je m'occupe du service au public. J'organise des visites guidées pour les groupes scolaires, les écoles et aussi des ateliers créatifs qui sont toujours reliés avec la visite. Et qui se réapproprient un petit peu les techniques des artistes que l'on voit dans la galerie. Alors on essaye d'expérimenter avec les enfants, avec aussi les étudiants du secondaire, la magie un petit peu des œuvres qu'on présente au Man Musée.
Honoré Do travaille souvent avec des matériaux légers, alors qu'au Man Musée, la structure est solide. Il est commissaire au MAD pour cette exposition-ci, La Goutte d'eau. Il ne se montre pas, c'est le public qui vient et qui s'occupe de découvrir les œuvres. Le dispositif correspond à son travail car ça change de jour en jour.
Avec Muriel Thys, Sylvie Messier, Jean-Michel Botquin, Honoré Do, Marie Guéris et les élèves de rhétorique promotion 2012-2013 du Collège Sainte-Véronique à Liège. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot par Oui Dire, une production de Pascal Tison. Les élèves de rhétorique du Collège Sainte-Véronique de Liège ont découvert l'art contemporain durant leur dernière année dans l'option art d'expression, à raison de 4 heures semaine. Après des recherches de groupe, de nombreuses visites d'expositions et quelques rencontres avec des professionnels, ils se sont intéressés au rapport entre l'art différencié et l'art contemporain à travers l'exposition « Au compte-goutte » par l'artiste gantois Honoré Do au Mat Musée de Liège.
Alors le Mat Musée, c'est un musée qui a été créé en 1998, mais qui est vraiment relié historiquement avec le CREAM, hein, le CREAM fondé par Luc Boulanger à la fin des années 70 à Liège, et qui proposait d'une manière avant-gardiste des ateliers pour des artistes handicapés mentaux. Alors Luc Boulanger a été vraiment un pionnier dans ce domaine, et les artistes ont commencé à produire et il fallait mettre quelque part toutes les œuvres accumulées. D'où l'idée de créer un musée.
Je suis arrivée en 5e secondaire à Sainte-Véronique, donc j'ai un peu difficile d'assimiler tout ce qui est art contemporain, etc.
Pourquoi ?
On va dire que c'est quelque chose d'assez complexe.
C'est-à-dire ?
Ça nous fait poser des questions, on a besoin d'un esprit critique, quoi, pour comprendre certaines œuvres. C'est pas une simple œuvre qu'on regarde et qu'on se dit « Ah, c'est joli, quoi. » C'est autre chose de plus profond.
Et maintenant, nous avons dans la collection plus de 2000 œuvres d'artistes du monde entier. Autant d'Allemands, de Belges, mais aussi des Japonais, des Australiens, des Américains. Donc, c'est vraiment une collection internationale.
Jean-Michel Bodquin, Honoré Daud participe à la galerie Nadia Vilaine, où vous œuvrez.
Oui, depuis de nombreuses années. Je crois que la première fois qu'on a montré Honoré, c'était en 1999. Donc c'est une longue et fidèle collaboration entre un artiste gantois et une galerie liégeoise, qui est assez amusant.
Un artiste qui est architecte au départ.
Alors MAD, ça veut dire musée d'art différencié.
Honoré Daud, qui est à Venise, vous le dites, a occupé le pavillon de la Belgique.
Oui. C'était il y a combien de temps maintenant? Il y a déjà 8 ans, je crois. Oui, 8 ans.
Mais là, c'est important que j'essaie de matérialiser ce phénomène que l'information artistique commence à vivre au point de perspective du visiteur.
Le rôle du sable, qui est la plage. Ou les travaux. Ou le temps.
Et ou la juxtaposition des choses.
Et c'est où la nature commence. On a coupé cet arbre pour avoir de bois, pour créer du papier avec les papillons, créer les livres. L'information est dans les livres. Avec les livres, on crée des bibliothèques. Avec les bibliothèques, on donne toute notre culture à la prochaine génération, qui le lit ou qui le tient. Et à ce point, il y a toujours ce déroulement de connaissances métaphysiques.
Un peu à son habitude, il s'était complètement immergé dans la ville de Venise pendant très très longtemps à la recherche, et c'est peut-être une notion qui est importante par rapport à la pratique qu'il a ici au MAD, à la recherche d'accidents, des rencontres, sa propre rencontre avec la ville, la rencontre des gens, la rencontre de situations. Et quand je dis qu'il s'était parfaitement immergé, ben là aussi il y a une photo célèbre qui a très longtemps circulé, qui est assez drôle, où on voit Honoré sur une gondole, immergeant sa tête dans l'eau, comme s'il voulait effectivement aller voir ce qui se passait au fond du canal. C'est quelqu'un qui effectivement est extrêmement curieux de tout et qui dès lors, je dirais, s'imprègne, là c'était vraiment le cas, jusqu'à se mouiller complètement, s'imprègne vraiment d'une situation donnée par rapport effectivement à la pratique artistique qu'il va développer.
Sylvie Messier.
Vous disiez accueillir des publics,
oui.
Y compris les écoles, vous avez dit.
Oui.
C'est ce qui va se passer aujourd'hui, et la raison de ma présence.
Exactement, oui. Puisque nous allons accueillir l'école Sainte-Véronique, une classe de 6e secondaire, qui a fait un travail de longue haleine, je pense qu'il se prépare depuis vraiment plusieurs mois. Ils ont visité à maintes reprises l'exposition. Et là, ils veulent aussi rencontrer Honoré Daud cet après-midi pour poser des questions, avoir un contact direct avec l'artiste.
Il vient de fêter son 30e anniversaire, alors qu'il a un peu plus de 50 ans, je crois qu'il doit avoir 51 ans ou 52 ans. Mais effectivement, il y a quelques jours, il a fêté le 30e anniversaire de ce nom, Honoré Daud. Honoré simplement parce qu'il a vécu un petit temps à Paris, rue Saint-Honoré, et que c'est une période de sa vie dont il garde un souvenir particulièrement ému et enthousiaste. Et puis le Do qu'il écrit comme un delta, et le O, justement ça représente toute l'immensité des choses. Je dirais c'est vraiment le symbole même de l'infinitude de tout, de sa propre infinitude et de sa propre finitude, parce que justement c'est quelqu'un qui est très conscient effectivement de la fragilité de la vie, et puis aussi malgré tout qui est dans un univers, une espèce de cosmogonie du travail qui est sans fin, à l'image même de l'univers. Oui, ça pourrait être le haut indien. Oui. C'est un. Oui. Non. On peut très bien voir effectivement Honoré sous le signe indien. Ça lui va très bien.
Honoré d'eau.
Une structure métallique. Deux possibilités d'exposer des œuvres. Une table plate. Une table plutôt style table à dessin. Un spot dirigé vers chaque œuvre. Une table qui propose du papier, des crayons, des marqueurs sur lesquels on peut dessiner, écrire ses sensations par rapport aux œuvres qu'on a vues. Le tout entouré d'un parterre de sable.
Qu'avez-vous vu ?
Donc, c'est une installation d'Honoré d'eau où il y a deux œuvres. Une sculpture et une peinture. Sur le sol, il y a du sable qui donne un aspect un peu cosy, un peu d'intimité à la pièce. On se demande si on peut marcher au-dessus ou si on ne peut pas.
Le faisceau de lumière entoure l'œuvre de fort près. La sculpture est vraiment mise en valeur. Elle est posée sur la table plate. Et un dessin ou une peinture est toujours exposé sur la table à dessin. Le faisceau du spot n'est jamais modifié, donc la peinture est éclairée dans son entièreté, quasiment ou pas, selon sa taille.
Jean-Michel, ga er nou nog moeier zijn? Nee, we kunnen altijd afdwalen in uitlegjes en in betekenissen en zo.
Honoré d'eau a demandé à un artisan de Bruges de construire cette table spécifiquement par rapport à ses plans. Donc rien n'est laissé au hasard. Et comme on peut le constater, c'est une table mais d'un seul morceau. Il y a vraiment une unité dans cet objet qui pourrait être considéré aussi comme un objet d'art dans un sens. Et le sable est arrivé à la fin. Ce qui est intéressant, c'est qu'Honoré d'eau a dit « Il manque quelque chose à mon installation » et il nous a demandé d'acheter des sacs de sable. On ne savait pas trop ce qu'il allait faire avec. Et donc, il a fait cet îlot qui isole un petit peu du spectateur l'installation.
Als het echt kunst is, moet er zoiets bestaan. Op dat moment dat die ervaring meegedeeld wordt. Dat die een blabla overstijgt. Want we zitten daar hoe langer hoe meer in, wel een beetje. Hè? Verantwoording, uitleg, dossiers, verklaring, toegankelijkheid, kijkcijfers.
Et vous avez marché?
Oui, j'ai quand même marché. J'ai d'abord demandé si on pouvait. Puis j'ai été regarder et il n'y avait pas beaucoup d'informations sur les œuvres. Et c'est normal car Honoré d'eau préfère que... qu'on essaye de comprendre par nous-mêmes.
Vous avez compris quoi ?
Sur les œuvres qui étaient là, il y avait un espèce de petit sac en plastique vert entouré de tissu rose. Et moi, ça me faisait plutôt penser à l'enfermement ou quelque chose comme ça. Je ne trouvais pas ça très joyeux.
Et ensuite
Il y avait aussi la peinture avec un train et une voiture. La voiture roulait au-dessus du train. Ça me faisait penser un petit peu comme il y a dans Liège, le pont qui passe au-dessus des rails. Mais ça ne m'inspirait pas grand-chose, ce dessin-là.
Vous dites Liège, car on est à Liège.
Oui, mais je ne sais pas d'où vient l'artiste, mais ça m'a fait penser à cet endroit-là.
De Gand.
De Gand. Je ne suis pas là à Gand. Mais... Ah, non. Il vient de Gand, ok.
Et l'année prochaine
L'année prochaine, je compte aller étudier les langues à Bruxelles. Mais je crois que je vais quand même continuer à m'intéresser à l'art en visitant des musées.
Vous croyez? Vous n'êtes pas sûr?
Ça va dépendre du temps que j'ai et tout ça, mais j'aimerais bien quand même continuer à voir et à découvrir.
Et les langues, c'est quoi? C'est interprète?
Ah oui, interprète arrière anglais chinois.
Vous parlez chinois?
Ça fait 2 ans que j'apprends, mais en cours du soir. Donc je me débrouille un petit peu, mais je ne sais pas encore énormément. Je ne peux pas encore avoir de conversations très poussées avec des Chinois.
Honoré Do revient de Chine.
Ah, je ne savais pas.
Il était pendant le tremblement de terre.
Les visiteurs observateurs voient qu'il y a des traces de pas dans le sable. Donc ils comprennent que d'autres personnes ont franchi. Mais d'autres sont assez indécis et d'autres carrément n'osent pas. Donc ça dépend aussi de la perception de la personne, de sa personnalité et je dirais aussi de son expérience par rapport à l'art contemporain. Hein, parce que je pense qu'il y a une question de vécu au niveau de l'approche de l'œuvre d'art. Va-t-on franchir ou pas le petit fleuve?
Comme Tutu,
un artiste
processuel.
Processuel.
Oui, qui peut être processionnel à l'occasion, mais surtout processuel, ça, effectivement.
Et on entend le mot procès, c'est-à-dire déroulement.
Le mot processus.
Processus, déroulement.
Le déroulement des choses. Le fait, effectivement, de poser des questions qui sont très importantes, à commencer par la question de l'existence de l'art elle-même, à travers une infinitude de petites choses, mais qui finissent par, effectivement, former un tout sans fin, comme je le disais, et qui pose des questions extrêmement importantes par rapport à l'art, par rapport à l'existence des choses, ou par rapport même à l'existence des matériaux qui sont mis en œuvre.
Ik kwam Janut van het weekend tegen. Honoré, hoe is het? En ik kijk ze, Honoré, je hebt een echt probleem. Je hebt eigenlijk maar één echt probleem. We kunnen het niet afbakenen. C'est la plus grande qualité, peut-être, de tout mon œuvre.
Déjà, il y a le concept que Honoré Do a mis en place, que j'adore vraiment, avec le sable. Ça fait vraiment une atmosphère intime. Et donc, on se sent vraiment en contact avec les œuvres. On peut s'en approcher, on peut les voir un peu sous tous les angles, comme on en a envie. Donc déjà, c'est quelque chose qu'il a fait que j'adore complètement, avec la lumière. Et donc la sculpture qui a été mise aujourd'hui me laisse un peu perplexe parce que je ne la comprends pas trop, ça ressemble juste à un morceau de sac poubelle, donc j'avoue que je ne la comprends pas spécialement et elle me laisse un peu indifférente parce qu'elle ne dégage aucun message et aucune émotion. Par contre le dessin qui a été fait a l'air un peu enfantin mais en même temps il y a beaucoup de détails. Et c'est un dessin vraiment qui pourrait être dessiné par un enfant qui fait « Ah, j'ai pris le train » et il a fait son dessin, « J'ai pris la voiture » et il a pris sa voiture. Mais en même temps, je le trouve intéressant parce que c'est des moyens de transport qu'on utilise tous. C'est un dessin qu'on a déjà tous fait, donc c'est vraiment un rapport à l'enfance qui est intéressant.
Les enfants adorent. Les personnes autistes aussi. Ils se sentent très à l'aise. Ils jouent dans le sable. Ils écrivent des mots avec les doigts, avec leurs chaussures. Et je pense que ça intéressait aussi Honoré Do. Le fait qu'il y a un côté vivant qui se renouvelle.
Il y a beaucoup de choses, mais je peux les combiner avec l'air dedans, dans des installations qui sont plus grandes que l'objet. Et c'est à ce frontière que la vraie poésie commence pour moi. Et on nous disait, tu ne bloques pas, on ne sait jamais où ça commence et où ça arrive. Mais il y a plein de moments. Tu fais le moment au moment que tu décides les choses qui sont vraiment construites. Mais il y a toujours l'élément liquide qui continue.
Jean-Michel Bodquin, on attend une enseignante avec sa classe de l'Institut Sainte-Véronique à Liège. Une enseignante qu'on va dire particulière pour son souci qu'elle a de l'art contemporain, même si elle enseigne le français.
En effet, oui, non, c'est une expérience assez unique en son genre, puisque effectivement Marie Guéris profite, je dirais, de son programme pour donner une initiation à l'art contemporain à des jeunes gens qui sont en dernière année d'humanité. Donc ces jeunes visitent une dizaine d'expositions sur l'année. avec à la fois une information, des conversations, autant sur le fonctionnement de l'art que sur l'art lui-même. Et dès lors, je dirais, en tant qu'enseignante, Marielle en profite pour effectivement débaucher sur les travaux qui se font en classe. Ça a été un bloc, ça a été un journal. Il y a une année, si je me souviens bien, ça a été un film.
Et votre modèle, c'est la nature ?
En tout cas, on ne peut pas réduire l'idée que tout est nature et qu'on est plein dedans.
Non, je dirais plutôt que c'est le rapport entre nature et culture, profondément. C'est profondément de la nature des choses, au sens le plus abstrait du mot, donc y compris la nature d'un tube de PVC, mais qui justement devient grisaille parce qu'il est gris, donc devient dessin tout en étant sculpture. Et là, on est dans une problématique de la culture.
Marie Guéris, c'est qui ?
Marie Guéris, c'est ma prof d'art d'expression. Elle nous apporte beaucoup de choses, car elle connaît dans beaucoup de domaines de l'art et tout ça. Avec elle, on a déjà appris le théâtre, le cinéma, les arts plastiques.
Merci beaucoup.
Chez Honoré, les matériaux, même les plus durs, sont des matériaux qui sont très organiques. Cette question liquide ou cette question de l'air est extrêmement importante parce que ou bien l'univers de l'œuvre se concentre, il peut même se concentrer dans des boîtes en plexi, mais il ne faut pas essayer de demander à Honoré de rester dans la boîte en plexi parce qu'il va en sortir d'une manière ou d'une autre. C'est à la fois un univers extrêmement concentré et c'est un univers qui peut aussi être complètement spatiophage. Spatiophage, vous dites à Honoré, tiens, voilà, là, il y a 3 mètres de cimes, tu peux travailler. Il va tout de suite, c'est presque un principe de base, c'est quelque chose d'extrêmement naturel, il va tout de suite dépasser les 3 mètres. C'est effectivement une œuvre qui est en expansion, qui automatiquement fait référence à la précédente et annonce déjà la suivante. Donc même quand une œuvre rentre dans une collection, que ce soit une collection de musée ou une collection privée, elle n'est pas terminée. Elle ne sera jamais terminée. Il y a même le fait qu'Honoré peut très bien laisser la liberté aux gens de compléter l'œuvre, de remplacer certaines choses.
Vous avez vu quoi ?
Ici ? J'ai vu l'installation. Avec une amie, on est revenu plusieurs fois pour présenter quand les personnes arrivaient. Donc on était des spectateurs qui présentions aux personnes les œuvres et l'installation d'Honoré Do. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de monde qui sont venus, mais bon, on a vu différentes œuvres de l'art différencié et donc toute l'installation, le sable qui ressemble à une petite île et les œuvres sur lesquelles on n'a pas d'informations, sauf si on le demande aux dames qui s'occupent de l'exposition.
Donc vous êtes étudiante ?
Oui.
Élève de Marie Guéris ?
Oui, exactement, Sainte Véronique.
Et vous êtes guide conférencière, oui. On va dire.
Oui, exactement. Donc on était les hôtes et donc voilà, ça aurait été une chouette expérience. On avait eu des personnes, mais bon, on a quand même vu plusieurs œuvres. Et c'était une chouette occasion.
Ça vous a apporté quoi ?
Ça m'a personnellement apporté de la fierté parce que. Je ne suis pas en art d'expression depuis longtemps, enfin depuis 2 ans. Et à force d'aller à des expositions, on a l'impression de s'y connaître de plus en plus, de rencontrer de plus en plus d'artistes, de voir des œuvres, des performances, etc. Et donc, on avait l'impression d'être là et de s'y connaître, de pouvoir présenter ce qu'on aimait aussi, l'art, à d'autres personnes. Et c'était plutôt chouette comme principe.
Et quand vous dites art d'expression, il s'agit de...
Au début du cours, c'était surtout des spectacles, donc faire des petites scénettes et tout ça. Et maintenant, c'est plus découvrir vraiment ce qu'est l'art contemporain, faire des visites, rencontrer des artistes, aller à la galerie Nadia Vilaine, enfin tout ce genre de choses. Et donc, on en apprend beaucoup. On apprend à avoir un esprit critique grâce au biais de l'art, à avoir un esprit critique sur la société, sur la manière dont fonctionnent les choses de nos jours, et à découvrir l'art contemporain. Et l'art brut et l'art différencié, en particulier cette année.
Et comment marche la société ?
La société est une société de consommation qu'on peut critiquer sous bien des angles et qui est critiquée par certains artistes de manière assez virulente. Et oui, dans certains aspects, on est utilisé comme des moutons dans la société. Par d'autres, on peut critiquer la société de consommation par rapport au gaspillage, au manque de recyclage, comme dans le film Glaneur et Glaneuse. Et tout ce genre de choses.
L'année prochaine, vous faites quoi ?
L'année prochaine, j'irai certainement en communication à l'université. Et après quelques années, j'aimerais bien prendre des cours du soir en illustration. Et peut-être faire un master en cinématographie, qui sait ? Donc voilà.
Et ce qui est assez étonnant, c'est que ça génère quand même chaque année 2 ou 3 étudiants qui ont envie de faire leur travail de fin d'études dans le domaine de l'art contemporain. Alors bon, vont-ils devenir amateurs ou pas ? On n'en sait rien, mais en tout cas, c'est un travail qui est suffisamment ancré dans une pratique qui dure quasiment toute l'année que pour effectivement laisser une trace tout à fait claire. Je me souviens d'une étudiante il y a quelques années qui, pour ses 18 ans, a demandé à ses parents une œuvre d'art comme cadeau. Donc là, effectivement, ça avait fortement marqué cette jeune fille. Et moi-même, j'ai reçu à la galerie, chaque année, je reçois 1 ou 2 étudiants qui viennent me trouver en disant « Je vais faire mon travail de fin d'études là-dessus. Est-ce que vous ne pouvez pas me briefer un peu, me donner une biographie, m'envoyer voir des artistes, des gens, ceci, cela ?»
Marie Guéris, Jean-Michel Bodquin évoque le fait que l'enseignement que vous faites, qui est exceptionnel, c'est-à-dire transmettre l'art contemporain aux élèves de terminale, rentre dans vos cours. Vous ne outrepassez pas vos matières.
Effectivement, l'art est parfaitement absent dans l'enseignement secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je dirais, là, il y a effectivement quelqu'un qui réussit à faire un boulot tout à fait remarquable. Tout en restant dans le cadre des cours.
J'ai un peu du mal à répondre à cette question, vu que le programme en art d'expression est très vaste. Je pense que la communauté française et les programmes du libre nous demandent avant tout d'ouvrir l'esprit des élèves, de leur faire découvrir la culture, de leur permettre aussi d'avancer en ayant les outils nécessaires à la communication. Or, les arts plastiques présentent aussi un certain type de communication, en interviewant des artistes qu'ils font chaque année aussi, donc ils interviewent les artistes seuls sans moi, en partageant leurs découvertes les uns avec les autres, avec les outils multimédia, en travaillant sur le cinéma, en travaillant sur le théâtre. Je pense rester dans le programme dans le sens où j'atteins les objectifs demandés par celui-ci. Maintenant, ce que je fais est assez rare parce que c'est très compliqué d'approcher le monde de l'art contemporain. Moi, j'ai la chance d'y être depuis très longtemps, d'avoir travaillé en relation avec des galeries, des artistes, de connaître un peu mon boulot et de pouvoir aussi avoir des contacts faciles avec des artistes relativement difficiles d'accès. Donc, j'en fais profiter mes élèves, tant mieux pour eux. À côté de ça, d'autres professeurs auront des facilités dans le théâtre, en ayant fait le conservatoire ou en ayant un réseau familial, amical, plutôt dans le milieu du théâtre et de la danse. Moi, ce sont les arts plastiques. Donc, j'exploite ma vie privée dans ma vie professionnelle en permettant à mes élèves de rencontrer des personnes qu'ils ne rencontreraient pas et de rentrer en contact facilement aussi, parce qu'il y a quand même un choc des mondes hein, entre Sainte-Véronique et Jacques Lizaine. Il y a de la marge.
Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la misère, le plaisir, les trottoirs, la rue, les pavés, les rigoles, les égouts, l'asphalte, le macadam, les bordures, les rues, les maisons, les buildings, les palissades, les abribus, les poubelles publiques, les poteaux de signalisation, les luminaires, les barrières, nada.
On est là
Mais on ne fait pas se perdre. Mais la réalité, ou comme le moment où on vit, ne montre pas tout le temps tous ses potentiels, ses valeurs, ses joies et tout ça. C'est pour ça que c'est facile de commencer immédiatement. Il faut trouver un peu la moyen de manipuler ce moment, ces matériaux autour de nous, pour le goût de mythologie, mythique, magie, toutes ces choses qui doivent être là tout le temps. Et je veux bien qu'il se montre. Et ça, c'est peut-être une manière de travailler avec. It's like breathing between. On a attention, on regarde où on est, mais il y a aussi la concentration. Et on a vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. Et ça, c'est un travail, c'est pas quelque chose qui arrive par soi-même. Il faut tenir autour de nous cette condition qu'on commence à se comprendre dans ce niveau presque invisible. Mais si on arrive là, c'est une joie légère et amusant et très profond.
Et vous parlez dans une émission qui a pour nom « Le monde invisible ».
Ok.
Et vous venez de définir de façon très belle, me semble-t-il, ce que c'est que la poésie. Non ?
Oui, oui, tout à fait. Moi, je suis. Je crois qu'effectivement, avant que d'être sculpteur, Honoré est un poète.
On dirait un emballage cadeau, on dirait quelque chose.
Oui, c'est un emballage cadeau, oui.
Ça me faisait penser au fond Blair Witch Project.
Non, c'est pas ce qu'il y a dedans, évidemment. C'est pas ce qu'il y a dedans.
Franchement.
Non, t'as plutôt un ressenti négatif.
Bah, c'est pas spécialement négatif, c'est pas que j'aime pas. Enfin, c'est juste que ça me laisse perplexe, je comprends pas et je comprends pas trop l'intérêt. Tandis que quand il y avait la sculpture avec les barbies dans la boîte et les différentes poubelles, bah, celle-là elle était intéressante, mais ça non.
Cet élève qui, pour ses 18 ans, me dit Jean-Michel Bodquin, demande pour son anniversaire une œuvre d'art.
Alors Manon, elle est sortie de mes cours il y a déjà 2 ans, je pense. J'ai du mal avec les années. Et elle fait partie de ces quelques élèves qui ont la flamme, qui me réjouissent.
Il y a un artiste qui emballait tout.
Si, j'ai déjà vu, c'est lui qui a emballé le monument.
Comment est-ce qu'il s'appelle? Ils font ça au couple d'ailleurs. C'est pas loin, c'est pas loin.
Madame, vous connaissez.
Je peux
pas vous aider.
Mais
il fait partie
du
surréalisme, c'est ça?
Non, c'est pas surréaliste. Non, c'est plutôt justement un artiste conceptuel. Il s'appelle Christo. Il s'appelle Christo et il a emballé toute une série de monuments. Il a par exemple emballé le Reichstag à Berlin, ce qui politiquement évidemment est très marquant. Il a emballé le Pont Neuf à Paris. Ça peut aussi faire penser à ça. Bon, c'est autre chose que cristaux, mais c'est un emballage en plastique, oui. Donc dès lors, effectivement, on se pose la question de ce qu'il y a dedans.
Chaque année, en sortant de Réto, donc ils font des leçons publiques où ils présentent un artiste qu'ils ont rencontré, interviewé sans moi. Donc j'ai donné les adresses et ils se sont organisés. Et un artiste international, ils font des leçons publiques aux autres en expliquant le parcours de l'artiste, une œuvre en particulier, ce qui les a frappés. Enfin, bon, voilà, un petit peu tout. Une présentation générale. Et quelques-uns sont vraiment passionnés et me disent qu'ils avaient vraiment du mal à s'arrêter tellement ça les passionnait. Et Manon était de ses élèves. Elle a continué à avoir des expos, elle a continué à m'envoyer des messages en me disant « j'ai vu ceci, j'ai vu cela ». Et elle est finalement allée chez Nadia Vilaine pour son anniversaire avec ses parents. Ce qui est quand même un chouette cadeau pour moi. Enfin, c'est très agréable d'en arriver à ce point-là. Et elle me l'a dit en plus, donc j'ai trouvé ça très très sympa. D'autres ont le même parcours avec le cinéma. Le cinéma accroche quand même beaucoup plus facilement que l'art contemporain. Donc j'ai des élèves qui font l'INSAS, l'IAD, qui m'appellent après pour me montrer leur court-métrage ou me dire qu'ils ont fait ceci ou ça. D'autres, c'est le stylisme. L'art contemporain, c'est plus rare. Mais voilà, ça arrive, tout arrive. Et elle n'a pas choisi une œuvre si simple que ça, je pense.
Pour savoir ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire l'œuvre, hein?
Notre professeur, donc, je pense qu'on a beaucoup de chance de l'avoir comme prof parce qu'elle s'y connaît vraiment quand elle nous parle et elle est toujours passionnée par l'art contemporain, par tout ce qu'elle nous apprend. Elle nous parle toujours vraiment avec la passion. C'est pas un cours d'art où on nous déblate un cours d'histoire de l'art sans trop d'intérêt. On voyage, on va à des expositions, on en apprend toujours. Et on a aussi l'impression parfois elle découvre en même temps que nous. Donc c'est un excellent professeur qui nous donne un cours captivant.
Ce cours s'appelle ?
Art d'expression.
Je me souviens d'une petite sculpture qui était un petit autoportrait constitué simplement d'un petit pull rouge d'enfant sur un cintre pendu à une ficelle avec deux babouches en dessous reposant sur une série de livres. Là, on est vraiment dans la notion de culture. Et puis, la personne qui s'est appropriée cette œuvre a demandé comment elle devait l'entretenir et Honoré a simplement répondu que ben oui, tous les 6 mois ou tous les ans, il fallait peut-être effectivement prendre le petit pull, l'enlever de son cintre et le mettre à la machine à laver comme n'importe quel autre pull. Ce qui implique que effectivement, et c'est par rapport à une sculpture, un geste extrêmement grave, tant dans notre culture on est habitué au caractère démiurge de l'artiste, que de se dire, bon Dieu, je vais devoir reprendre ce petit pull et le remettre sur un cintre. Donc, c'est-à-dire à la fois poser un geste extrêmement quotidien, mais aussi poser le même geste que ce que le sculpteur a fait.
Il y a quelque chose qui est étonnant de la part de Noredo, c'est que d'habitude, dans son travail, c'est un travail fragile, c'est un travail qui ne dure pas. Ici, la structure, l'exposition au compte-gouttes, c'est une structure solide en bois, en métal. C'est une structure qui ne bouge pas. Et donc ça, moi, ça m'a un peu interpellée. Pour le nom de l'exposition donc au compte-gouttes, ça fait penser à la goutte d'eau. La goutte d'eau qui est aussi l'effet qui est utilisé à l'entrée de l'exposition quand on rentre, donc pour la mosaïque sur le sable. Et au compte-gouttes, parce qu'on va voir chaque œuvre au compte-gouttes. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, vu que ça nous permet de ne pas nous centrer sur un artiste ou sur une façon de voir l'art, mais de pouvoir vraiment s'intéresser à l'art, vu qu'on va s'y intéresser au fur et à mesure. On ne va pas dire « Oh, j'ai été voir une exposition samedi soir, c'est bien, ça m'intéressait. » Là, c'est vraiment pouvoir venir chaque jour et découvrir un petit peu plus, pour au final pouvoir peut-être découvrir l'ensemble de la collection.
Ça n'a l'air de rien, c'est là où résident les choses extrêmement importantes dans des choses qui sont extrêmement simples, extrêmement quotidiennes. Alors, dès lors, le petit pull ne sera peut-être pas tout à fait de la même façon sur le cintre, mais en soi, ce n'est pas grave. L'œuvre, effectivement, continue à vivre de cette façon-là. Le problème peut se poser aussi à un conservateur de musée. Bon, qui se trouve devant une très très grande œuvre, qui 10 ans après dit à Honoré, tu ne veux pas la réinstaller, et au fond la réinstallation ne sera pas du tout celle qui était là au départ, ce sera déjà une réinterprétation du travail.
Rapport au temps aussi, à l'éphémérité, toutes les œuvres elles sont entreposées, mais on ne les voit presque jamais. Et donc, les montrer de façon aussi éphémère, c'est aussi montrer qu'elles existent sans pour autant montrer que c'est de l'art, même si c'est de l'art différencié, justement, et montrer que cet art différencié a sa place dans l'art contemporain, même si c'est deux choses différentes.
On est tout le temps, effectivement, dans cette espèce de mutation des choses où, exactement comme l'univers est dans une expansion, une répétition, où tout peut renaître d'une manière ou d'une autre. C'est extrêmement dynamique comme travail.
En fait,
J'ai la chance d'avoir une maman qui est peintre également. Et donc, j'ai toujours été, moi, voir ses expositions, vernissages, etc. Et elle a toujours voulu m'ouvrir à notre culture, à la différence. Donc, même quand je partais en vacances, généralement, c'était les visites le matin et la détente l'après-midi. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Maintenant, l'art contemporain, c'est quelque chose que j'ai découvert cette année. Je ne connaissais pas du tout. Mais j'apprécie fortement. Et même s'il y a beaucoup d'incompréhension de ma part, parce que ce n'est pas quelque chose de facile à comprendre, ce n'est pas quelque chose de facile à appréhender, on n'y est pas habitué, je trouve que c'est quelque chose qui nous fait changer notre vision du monde. Parce qu'en fait, ça remet en question tout ce qu'on connaît déjà. Et ça permet de voir autrement les choses, mais de voir les choses autrement sans penser qu'on a tout compris. De comprendre qu'on n'a pas compris, en quelque sorte. Donc ça, oui, et maintenant, oui. Par exemple, quand je passe devant le MAD, je vais avoir l'exposition pour l'instant, les deux œuvres, etc. Je suis venue justement avec ma maman pour lui montrer. J'ai pu lui expliquer, etc., le fonctionnement. Et elle a apprécié aussi. Donc voilà. La sociologie des études m'intéresse énormément. Mais le métier plus tard n'est pas spécialement ce qui m'intéresse. Et l'ergothérapie. Parce que l'ergothérapie, c'est un moyen... On m'a toujours dit qu'on me verrait bien dans le social, etc., mais je ne voyais pas du tout psychologue ou un métier du style infirmière. L'ergothérapie, c'est un moyen d'aider les autres sans faire, en faisant un travail qu'on apprécie, en faisant des activités. Et c'est un moyen d'aider l'autre à revivre et à renaître. Il y a beaucoup, en plus, dans l'ergothérapie, c'est beaucoup d'activités aussi artistiques, sans pour autant être artistiques. C'est développer les sens de chacun et je pense que ça peut être super intéressant.
Merci beaucoup. Paris Guéris, une initiative pensée depuis longtemps, que cette rencontre entre le plasticien et vos étudiantes ou vos élèves?
Chaque année, mes élèves rencontrent différents plasticiens dans différentes galeries, notamment la galerie Nadia Vilaine qui nous reçoit régulièrement avec ou sans l'artiste, mais relativement souvent avec un artiste qui présente le travail. Au Centre culturel Les Brasseurs aussi, Dominique Mathieu s'arrange très régulièrement pour qu'il y ait un artiste qui rencontre mes élèves, 251 Nord également. Donc on a rencontré quelques artistes dans ce cadre-là. Et lorsque j'ai su que Honoré Do travaillerait au MAD, je me suis dit que ce serait super intéressant pour les élèves de rencontrer à la fois un plasticien très pointu, qui n'est pas liégeois, pour une fois, et le monde de l'art brut, que personnellement j'aime beaucoup, et que mes élèves ont découvert avec beaucoup d'appétit il y a quelques années. Donc voilà, les ingrédients étaient en place pour faire un travail qui les motive.
On peut aussi se dire qu'il n'y a que la couleur verte. Il y a le principe d'emballer. Il y a le principe de contenir quelque chose. Est-ce qu'on doit absolument faire référence à ce qu'il y a dedans et au fait effectivement qu'on ne sache pas ce qu'il y a dedans? Ou est-ce qu'on peut effectivement faire une lecture sans se poser la question du contenu?
À mon avis, c'est la question du contenu qui justement est intéressante. Et c'est peut-être la seule chose qui peut être intéressante dans cette œuvre. C'est le mystère qu'il y a autour. Parce que si on se concentre sur l'aspect extérieur, c'est pas joli. Ça ressemble pas à grand-chose, donc extérieurement, si on se base juste sur son aspect, elle n'a vraiment pas d'intérêt. Tandis que si on va plonger dans le mystère, alors là, on peut réfléchir, bon, qu'est-ce qui pourrait avoir cette forme-là? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour qu'on l'emballe de cette façon? Et donc pour moi, si on enlève le mystère, l'œuvre n'a encore moins d'intérêt.
Travaille sur son travail et maintenant vous avez l'occasion de le voir en vrai. C'est un hippie, c'est un monsieur en costume.
Un hippie.
Moi je me demande pourquoi la structure est aussi solide alors que quand on voit vos œuvres, c'est des choses toutes fragiles, toutes éphémères et toutes délicates.
C'est pas délicat.
L'installation, oui, la salle, oui. Aussi le sable.
Quand vous dites on découvert avec appétit il y a quelques années, ça veut dire que vous enseignez à toutes les classes d'âge?
Alors j'enseigne aux 4e, 5e et 6e année d'art d'expression.
Le ventre d'une femme. C'est un bébé, mais c'est pas encore né, tout est fragile ici, tout est en train de se construire. Je ne veux pas trop créer une situation qui est ouverte d'extérieur, parce qu'ici on est vraiment quelque part où tout est fermé de l'extérieur, on est dedans. This installation is not size specific. Je ne travaille pas avec les bâtiments, pas avec les murs ou le cafétéria, Liège. C'est la collection, les gens qui font ces produits qui m'intéressent et je veux essayer de trouver une solution pour être si proche que possible pour comprendre que ça existe, ce langage. Et c'est peut-être secret, mais peut-être ce n'est pas un secret qui va être découvert parce que c'est peut-être le sac à plastique qui est dedans. Il n'y a rien dedans, c'est le plastique qui est dedans. Et c'est assez agréable de commencer à réfléchir, réfléchir sur l'idée de la connaissance qu'on ne connaît pas encore. Mais peut-être demain, c'est en train. Ça ouvre nos yeux pour les choses qui sont là, mais qui ne sont pas encore catégorisées dans les systèmes solides. Et ça, c'est un peu solide pour donner de sécurité aux objets et les réalisations des gens qui ne sont pas là pour dire comment il faut les protéger dans un cadre ou sur une globe ou une stole.
Des bibliothèques qui sont faites le plus souvent en polystyrène, de couleur blanche. Les livres sont blancs. Parfois, il y a une tranche de livres en bois. Là, on retrouve effectivement ce rapport entre nature et culture. Parce que la planche en bois, c'est l'arbre. Le polystyrène, c'est l'image du livre, c'est la forme du livre. Et le blanc, à la fois, a cette capacité de l'invisible et aussi du visible, et de rendre les choses visibles. Honoré est presque capable de rendre visible une conversation qui, par nature, est effectivement audible et non visible.
Ça n'a pas un poids, que ça reste légère, mais ce n'est pas un jeu qui commence et que cette pièce arrive dans le parking là-bas, à 200 mètres. Ce n'est pas cette question qui est montrée ici. On entre dedans et on est avec toi sur l'idée de langage visuel. C'est pour ça que je ne veux pas vraiment expliquer.
Il prend pour cela du polystyrène dont il fait des phylactères et puis sur les phylactères il en fait des conversations que moi j'appelle cotonneuses, comme si effectivement on parlait d'une façon extrêmement cotonneuse, et qui sont simplement la juxtaposition de toute une série de petits cotons les uns à côté des autres. Ça devient complètement une surface complètement moutonneuse, comme si la parole était moutonneuse, et on est dans ce rapport d'une très grande légèreté, d'une très grande fragilité des choses, parce que ce matériau est extrêmement fragile, il va se salir très vite. Il va falloir le remplacer. On n'est pas dans l'éphémère parce que la pièce n'est pas éphémère, justement. Elle est quelque chose d'extrêmement tangible, mais on est dans un rapport où, effectivement, on est dans un rapport à la pensée. Dès le moment où on parle d'un rapport à la conversation ou d'un rapport au livre, évidemment, on est dans un rapport à la pensée.
Si vos futurs élèves, car on est au début d'année scolaire, écoutent cette émission, leur donnerez-vous votre démarche pour cette année ?
Je les ai en quatrième année, où on démarre déjà un peu le choc des cultures, on va dire, introduction à la culture alternative. Donc voilà, on commence par des clips vidéo. Ils en regardent énormément, la musique c'est quand même, ils vivent avec, constamment, comme moi, avec un casque sur les oreilles. Donc on commence par les clips vidéo et puis on va vers des choses de plus en plus compliquées. En cinquième, on travaille le cinéma. Quand ils arrivent en réto, ils ont compris déjà que l'art ne sert pas à distraire, à amuser, à passer le temps, mais l'art sert à ouvrir l'esprit, l'art sert à voir autrement le monde, à bousculer les repères, à faire réfléchir. Enfin, bon, ils ont bien intégré tout ça. Donc c'est déjà un peu plus simple pour eux d'aborder l'art contemporain que si je faisais le chemin inverse. Mais le langage du plasticien étant beaucoup moins simple et beaucoup plus divers que celui du cinéma, où on peut apprendre vraiment la grammaire du cinéma, c'est assez simple, la grammaire de la photographie, apprendre la grammaire de l'art contemporain, c'est nettement plus compliqué. Donc là, je leur dis toujours, faites-moi confiance, les deux années précédentes, c'était la même chose. Cette année, jusqu'au mois de janvier, vous allez me prendre certainement pour une dingue, vous allez avoir vraiment du mal, vous allez râler. Mais en février, vous vous amuserez, je vous promets. Et la plupart du temps, ils suivent parce qu'ils connaissent un peu la chanson, ils l'ont déjà vécue, puisqu'ils ont commencé par des films également en début de cinquième. On peut partir sur La jetée de Chris Marker comme un des premiers extraits. Et c'est pas grave si c'est difficile, justement. C'est voilà, on démarre par là, voilà ce à quoi on va arriver en fin d'année. Maintenant, vous ne le comprenez pas, ça vous heurte, ça vous choque, ça vous semble impossible. C'est normal, voilà ce qu'on va faire. On va apprendre les outils pour parvenir à voir et à prendre plaisir à voir cette œuvre. En fin d'année, on va y arriver. Donc c'est la même chose avec l'art contemporain. On se balade dans des œuvres de Sushan Kinoshita. Ben, je leur dis, maintenant, vous prenez ça pour des gros ballots et c'est bizarre, ça semble à des poubelles. En fin d'année, vous aurez un discours politique, écologique, philosophique. Et je vous jure que ce sera amusant pour vous. La plupart y arrivent.
Produit par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques et des collections, Le Monde Invisible présentait L'enseignement de l'art contemporain à l'école. Avec Muriel Tiss, Sylvie Messier, Jean-Michel Bodquin, Honoré Do, Marie Guéris et les élèves de rhétorique promotion 2012-2013 du Collège Sainte-Véronique à Liège. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genico par Oui Dire, une production de Pascal Tison.
Retrouvez par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.